donc prêche à Malo, et moi je prêche ici à Petite-Sainte. Et c'est bon de se visiter, parce que nous faisons partie de la même famille d'église, la même famille spirituelle, les CAEF. Donc nous avons des valeurs communes. Et je pense que c'est important, entre frères et sœurs, église, sœurs, de se voir, de se rencontrer, parce qu'il est bon pour des frères et sœurs d'être ensemble. Et ça dépasse même les murs de nos églises. Et il y a des croyants autour de nous, et ça fait du bien de rencontrer des gens qui ont rencontré Jésus-Christ. Chaque fois que j'ai cette possibilité, je suis heureux. Et c'est pour ça que je vais aussi sur le marché avec mon stand, pour aussi aller à la rencontre des chrétiens, même sans église, hein, il y en a. Mais je les rencontre sur la place publique, ils sont là, et je peux les bénir, et je peux les encourager. Et c'est ce que je souhaite vraiment, c'est que vous soyez encouragés ce matin. Et j'étais vraiment réjoui de voir combien d'enfants il y a aussi. Il y a toutes les générations qui sont représentées, et ça me réjouit le cœur. Je dirais qu'à Malo, la moyenne d'âge est un peu plus haute. C'est plutôt vers les 60 ans la moyenne d'âge, hein. Oui, un peu. Alors si vous pouvez prier pour nous, pour que il y ait davantage d'enfants. Grâce à Dieu, on a quand même fait un culte d'enfants par mois, et les grands-parents invitent leurs petits-enfants. Vous voyez, donc finalement on arrive. Dernier culte d'enfants, il y avait quand même 10 enfants. Mais sinon, c'est 1, 2, 3, voilà. Donc c'est pour vous dire, le sujet de prière, c'est ça. Notre sujet de prière, c'est vraiment que la relève aussi, hein, parce qu'il y a plusieurs Christian, il va sur ses 70 ans. Bernard, il a déjà 70 ans. Donc vous voyez un peu, je fais pas de dessin. Et on a besoin de renouvellement. Et on bénit le Seigneur pour ce qu'il a fait et ce qu'il est encore en train de faire. Par la grâce de Dieu, on a eu une personne qui s'est convertie l'an dernier, et elle s'accroche au Seigneur. C'est beau de la voir grandir spirituellement, et elle a été guérie aussi. Et on a vu l'œuvre de Dieu d'une manière extraordinaire. Dieu est un Dieu extraordinaire. Et j'ai bien aimé les chants au début du culte. Merci Francis d'avoir choisi ces chants, en particulier béni soit le lien qui nous unit en Christ. Si on est là, c'est parce qu'il y a un lien qui nous unit en Christ, parce qu'on est tous venus à la croix et qu'on a tous découvert le salut en Jésus Christ. On a tous reçu Christ dans notre vie, et notre vie a changé. Et c'est pour ça qu'on est frères et sœurs. Et dans la croix, il y a ces deux idées. Il y a la relation verticale avec Dieu. On est maintenant en relation avec le Dieu vivant et vrai par Jésus-Christ. Mais on est en relation aussi les uns avec les autres. Mais c'est pas toujours facile de vivre en famille, hein, n'est-ce pas? Parce que la famille, on la choisit pas. Hein? Et c'est pour ça que des fois, on est... Le Seigneur trouve son plaisir souvent de nous mettre avec des gens où on a plus de mal. Donc, je sais pas si ça vous est arrivé. Moi, j'apprécie vraiment les autres, hein. Et depuis que j'ai pris conscience de mes propres faiblesses, j'ai beaucoup plus d'indulgence pour celles de mes semblables. Et en cela, je suis heureux. Certains ont du mal à accepter les défauts des autres. Surtout, si les mêmes faiblesses sont aussi dans les leurs. Cependant, quand je pense à tous ceux que j'ai connus dans mon existence, quelques visages surgissent dans ma mémoire, les visages de ceux que j'ai eu beaucoup de peine à accepter et à aimer. Donc je suis sur le même bateau que vous. J'ai donc aussi besoin de mettre en pratique cette exhortation de l'apôtre Paul que je vais vous lire. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En fait, c'est dans Éphésiens chapitre 4, les versets 2 et 3. Je vais vous le lire dans la version du Semeur. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Deux courts versets, mais il faut les mettre en pratique. Ça, c'est autre chose. Alors, dans sa lettre aussi aux Colossiens, Paul se veut plus net encore quand il explique le comportement à tenir face aux faiblesses des autres. Voici ce qu'il écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Aïe. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc je pense que vous avez vu quel est mon thème. Supportez-vous les uns les autres. Alors dans ce passage de Colossiens, plusieurs mots clés précèdent l'injonction de Paul de se supporter les uns les autres. La compassion, la bonté, la douceur, la patience et même l'humilité. La patience est aussi au centre des prières de Paul pour ses chrétiens du Nouveau Testament. Regardez ce qu'il écrit par exemple au chapitre 1, toujours des Colossiens, versets 9 à 12, mais je vous lis des extraits. Nous ne cessons de prier, pourquoi ? En sorte que vous soyez toujours persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Se supporter les uns les autres, c'est avant tout supporter patiemment les faiblesses des autres. On a chacun nos faiblesses, quelque part. Personne n'est parfait, n'est-ce pas ? Nous sommes tous imparfaits, et particulièrement dans nos relations. C'est là que le bât blesse, comme on dit. Trop souvent, nous exigeons beaucoup plus des autres chrétiens que de nous-mêmes. C'est une réalité en particulier au sein de nos familles. Dans le cercle familial, la connaissance des uns et des autres se développe mieux que dans tout environnement social. Regardez dans un couple, par exemple. Nous vivons ensemble, jour après jour, semaine après semaine, et année après année. Et entre nos quatre murs, le meilleur et le pire transparaissent chez les parents et les enfants. Les parents exigent beaucoup plus de leurs enfants que d'eux-mêmes. Les enfants s'attendent à recevoir davantage de leurs parents que d'autres adultes. Le résultat souvent explosif de ces contacts reflète tout sauf la patience et l'indulgence mutuelle. Il en est de même dans la famille chrétienne, l'Église. Quand nous vivons ensemble, comme frères et sœurs en Christ, nous percevons les moindres particularités de chacun. Et nous devons relever le défi de nous supporter les uns les autres dans l'amour. Pour éviter de céder à l'impatience, il nous faut garder à l'esprit Jésus et son attitude à notre égard. Et Paul était conscient de cela. La patience du Seigneur à son égard avait marqué la vie de Paul et engendré une tolérance inhabituelle pour les autres. Se reconnaissant lui-même comme le pire des pécheurs, c'est ce qu'il a écrit, hein, il réalisait l'ampleur de l'amour et de la patience de Christ qu'il avait sauvé. Et c'est ce sentiment qui poussait Paul à dispenser aux autres un amour et une patience semblables à ceux de Jésus-Christ. Il avait été comme un père et une mère. Se supporter les uns les autres ou agir avec un esprit de pardon sont synonymes aux yeux de Dieu. Paul l'a déclaré clairement dans l'Épître aux Colossiens. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors certains chrétiens gardent sur leur cœur des rancunes pendant des années. Quelle misère! Quelle tragédie! J'en ai rencontré qui se sont éloignés du Seigneur à cause de ça. Qui ne peuvent plus voir leurs frères, leurs sœurs. C'est terrible, parce que c'est pas pour cela que Jésus est mort sur la croix. C'est pour nous rapprocher les uns des autres, mais pas pour qu'on se tire dans les pattes. Combien cela est indigne d'un disciple de Jésus-Christ. Quel manque de reconnaissance de la part d'un chrétien de nourrir une rancune contre un autre croyant pour qui Christ s'est livré. Alors que Christ a annulé sa propre dette de péché. Et elle était énorme. Et la dette de l'autre, elle n'était pas grand-chose par rapport à la sienne. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, Jésus nous rapporte une parabole significative à ce sujet. Un jour, Pierre demanda à Jésus, « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Autrement dit, difficile. Pour mieux comprendre ce prétexte, eh bien Jésus lui raconta une histoire. Matthieu 18 nous le rapporte et je lirai les versets 23 à 35. Jésus, souvent, pour faire comprendre une vérité, il raconte une histoire, une parabole. Et nous, comme on aime bien les histoires, eh bien, on écoute. Voilà ce qu'il dit. Donc, Matthieu 18, 23 à 35, si j'étais sur le bon. Voilà. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosterna devant lui, supplia, sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. C'est beaucoup moins. Il le saisit à la gorge en criant « Paye donc ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi !» lui dit-il. « Accorde-moi un délai et je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulait rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors, celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? » Et dans sa colère, le maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. C'est fort quand même comme avertissement, hein ? Et ça concerne les relations. Et je pense que c'est vraiment important de, quand on a un différend avec quelqu'un, se dire, mais d'où est-ce que je viens, moi? Moi, j'ai une dette énorme envers le Seigneur. Mais par rapport à cette dette que j'ai envers le Seigneur, qu'est-ce que c'est que la dette que mon frère vis-à-vis de moi? Pas grand-chose. Pas grand-chose, hein. Vous avez vu la différence entre les deux? Alors tout de suite, après sa recommandation de marcher avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, Paul poursuit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 2 et 3. La patience, l'indulgence et le pardon ne suivent pas automatiquement la conversion à Christ. Ce sont des actes de volonté délibérés. Et j'ai remarqué que tous ceux qui sont animés d'un esprit rancunier le font consciemment. Je le sais par expérience. Trop souvent, nous laissons paraître nos ressentiments dans notre attitude vis-à-vis d'une autre personne, en l'évitant, en lui parlant de manière cinglante, en la critiquant par derrière. Ça, c'est la réalité, hein. D'un autre côté, les chrétiens qui se soucient des autres et se sentent véritablement poussés à accomplir la volonté de Dieu à tout moment, s'efforceront de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça, c'est le christianisme en action. Alors, le plus grand défi, par exemple, pour les couples, c'est de supporter les faiblesses du conjoint. Et c'est dans cette relation que l'on apprend à se connaître d'une manière intime. Malheureusement, la plupart des couples n'arrivent pas à communiquer quand il s'agit de points irritants. Des petits riens prolifèrent ainsi avec rapidité jusqu'à prendre des dimensions gigantesques. Puis, c'est l'explosion. À la grande surprise du conjoint qui est pourtant à l'origine du problème. Parfois, des incidents surviennent simplement parce que nous refoulons nos sentiments et refusons de dire franchement ce qui nous tracasse. Il se peut aussi que les tentatives d'échange soient si discrètes que le conjoint ne s'en aperçoit même pas. Dans ce genre de situation, surtout lorsque les deux parties sont concernées, il n'est pas surprenant de constater une panne de communication. Ça vous est arrivé ? Moi, ça m'est arrivé. Une panne de communication. On n'arrive plus à communiquer. Parce qu'on est sous la colère ou voilà. Alors, un dialogue franc et clair est indispensable pour nous permettre de nous supporter les uns les autres dans l'amour. Dès que nous avons mis le doigt sur ce qui irrite notre conjoint, nous devons établir un plan pour changer cet état de choses. Par exemple, si l'un a l'habitude de laisser traîner ses affaires, cela peut irriter l'autre, qui aime l'ordre. Il arrive que certains conjoints soient très exigeants. Une telle situation dans un mariage peut engendrer de sérieux ennuis. Cependant, un couple chrétien ne devrait pas laisser les relations s'envenimer. Plus que tous les autres, nous devons porter notre responsabilité dans une relation. Si nous nous aimons vraiment, comme Christ nous a aimés, les problèmes se résoudront sans peur. Autrement dit, il faudrait que la croix soit entre nous deux. Que je vois l'autre au travers de la croix, au travers de Jésus. Les parents, eux aussi, ont à faire face à ce problème avec leurs enfants, mais à un degré plus intense. La réciprocité dans les relations échappe aux enfants en bas âge. Ils sont naturellement centrés sur eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain niveau de maturité. En tant que parents, nous devons veiller à ne pas trop demander à un petit enfant afin d'éviter le risque de frustration, de colère, de ressentiment et même de plus graves ennuis. Combien, en tant que père, j'ai dû me repentir de cela et demander pardon même à mon fils. Même s'il était petit, je lui ai demandé pardon et il s'en rappelle. C'est pourquoi Paul écrit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Colossiens 3, 21. Je suis souvent surpris de constater combien les parents reportent toutes leurs ambitions déçues sur leurs enfants, ce qui engendre évidemment la colère, l'amertume, le découragement. Il faut que les enfants apprennent très jeunes à se supporter les uns les autres. Mais comment le feront-ils s'ils n'ont pas eu d'exemple eux-mêmes devant les yeux ? Donc c'est en leur montrant l'exemple que les parents parviennent le mieux à faire comprendre et à accepter le principe de patience et de pardon. S'ils l'ont vu, c'est resté gravé là. Ah, papa et maman se sont réconciliés. Très important ça, pour les enfants. Revenons pour finir à l'intention première de Paul lorsqu'il a placé ce mot « supportez-vous les uns les autres » en exergue à ses exhortations. Il avait d'abord en vue la vie en Église, dans le corps de Christ. Et l'unité, elle est donnée par Dieu. C'est l'unité qui est créée par l'Esprit de Dieu, habitant dans tous ses enfants. Donc on n'a pas besoin de la créer, elle est créée par Dieu. Cette unité, il faut s'efforcer, ça c'est écrit, hein, il faut s'efforcer de la conserver en reconnaissant la diversité des dons. Acceptons les différences. C'était écrit dans le chant. Hein. Acceptons nos différences. Reconnaître donc la diversité des dons accordés par Dieu pour l'édification du corps. Si on est différent, c'est parce qu'on est complémentaire. Ça va dans la famille et ça va aussi dans l'Église. La reconnaissance, la diversité des dons, donc la diversité des tempéraments, des conceptions et des goûts, etc., en les acceptant positivement. L'unité d'une Église ne se conserve pas automatiquement. Il faut s'efforcer. Un dessin humoristique représentant un homme dans un canoë, le dos tourné vers les chutes du Niagara, vers lesquelles le courant l'emporte, et qui chante « Que faut-il faire pour être perdu ?» On pourrait poser une question analogue devant un édifice religieux. Que faut-il faire pour qu'une église se délabre ? Rien. Pour conserver l'unité d'une église, il faut un effort conscient, riche et persévérant. Les foyers désunis et les églises divisées sont légion, parce que c'est la pente naturelle. Un peu si comme dans un jardin, si on laisse les mauvaises herbes pousser, elles vont pousser toutes seules, hein. On n'a rien à faire, ça pousse. Par contre, il faut les enlever. Ça, c'est notre part. Et pour éviter la fissure fatale, il faut prendre un certain recul. Comme dans une maison d'entente conjugale, et se demander où est-ce que je veux en venir. Là, j'ai une petite illustration. Eh bien, vous avez été à un concert déjà. Qu'est-ce qui se passe au début d'un concert ? Avant le concert, très important, les instruments s'accordent. Ça, c'est important. Même avant le culte, peut-être le piano s'est accordé à la guitare ou la guitare s'est accordée au piano, pour qu'on soit dans la même tonalité. D'accord ? Parce que qu'est-ce qui se passe s'ils ne s'accordent pas ? C'est la cacophonie. Au lieu de ce soit la symphonie, c'est la cacophonie. Donc, vous voyez, ça, c'est un bon conseil. Accordez-vous les uns les autres. Alors attention, qui sème le vent récolte la tempête. Et lorsque la tempête est passée et que l'on constate le désastre, arbre abattu, toit arraché, foyer démoli, on peut bien dire, cela je ne l'avais pas voulu. Je pensais seulement qu'un bon petit vent secourait un peu les cocotiers et ferait tomber les vieilles branches. Mais vous avez oublié l'autre, c'est-à-dire le diable, qui souffle avec vous, est 10 fois plus fort que vous, et qui de votre semence de vent fera une moisson d'ouragan. Il est facile de critiquer, de démolir, c'est un instinct naturel. Partout où des hommes et des femmes vivent ensemble, on se critique. Mais dans une église, la question qu'il faut se poser est dans quel but je le fais ? Est-ce que je suis en train de construire ? Est-ce que j'édifie ? Que tout se fasse en vue de l'édification, nous dit l'apôtre. 1 Corinthiens 14, 12 et 26. est-ce que de ma critique, le frère ou l'Église va sortir grandi, mieux affermi, plus capable de faire face aux problèmes qui se posent à lui? Si vous lancez un brasier de discorde dans une église, attention à l'avertissement de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. 1 Corinthiens 3, 17. L'apôtre continue son exhortation aux Corinthiens par un avertissement adressé à ceux qui pensaient être sages, mais risquaient de mettre en péril l'unité de l'Église à Corinthe. Dans une dispute, dans une dissension, chacun se croit sage. L'apôtre ne semblait pas le connaître, ce remède souverain. Celui qu'il indique est celui d'une formule plus complexe. Selon lui, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la recette? Il faut une bonne dose d'humilité, une autre de douceur, et une dose de patience, et on mélange le tout afin de pouvoir supporter l'autre et la situation avec amour. Mais c'est sa formule qui est la bonne, car il écrivait sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, et après tout, Dieu doit savoir mieux que nous ce qu'il faut à son Église. Pour lui, ce ne sont pas les remèdes miracles prônés dans les livres sur la rénovation de l'Église qui sont efficaces, mais en premier lieu, l'effort conscient et décidé de supporter le frère ou la sœur tel qu'il est avec amour, c'est-à-dire de l'aimer comme il est, d'avoir à son égard la même patience que Dieu exerce envers nous, et de l'aborder avec la douceur que seul le Christ peut nous donner, ce qui ne nous empêchera pas de prier pour qu'il change. Mais alors son changement sera l'affaire de Dieu et non plus la nôtre. On ne peut pas changer l'autre, seul Dieu peut changer, mais on peut faire un effort pour nous changer ou changer notre regard sur l'autre. Alors il y a toutefois des personnes et des situations insupportables dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'il nous est impossible de supporter sans subir de dommages graves dans notre personnalité ou même dans notre santé. Jésus n'a pas supporté que les marchands du temple ternissent l'honneur de Dieu, ni que les pharisiens lit sur l'épaule des autres des fardeaux qu'ils ne consentaient pas à porter eux-mêmes, qu'ils dévorent les maisons des veuves et des orphelins et répandent le sang des innocents. Et il est intervenu. Et si la tâche vous paraît démesurée, eh bien, écoutez le conseil de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Là, nous cheminons vers Pâques, vers la croix. Eh bien, je vous invite, frères et sœurs, à considérer Jésus-Christ. Chaque fois que vous avez un différend avec quelqu'un, considérez Jésus-Christ. Comment lui, quelle attitude il avait vis-à-vis de ceux qui étaient ses ennemis? Il a dit « Aimez vos ennemis », mais il l'a mis en pratique. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé quelques jours avant sa mort, il était en face de ceux qui le condamnaient. Quelle était son attitude? Ça, c'est quelque chose à prendre dans son cœur. Et ce que je vous invite à faire aussi, frères et sœurs, c'est vous dire aujourd'hui où est-ce que j'en suis dans ma relation avec les autres. Et si il y a un différend avec quelqu'un, demandez au Seigneur qui vous aide à prendre une décision aujourd'hui de le supporter, de supporter cette personne, surtout si elle connaît le Seigneur. Vraiment très important. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous ayez un moment, qu'on ait un moment juste de silence, mais tout simplement dire où est-ce que j'en suis dans ma relation déjà avec Dieu, mais dans ma relation avec mes frères et sœurs. Et s'il y a une zone d'ombre, s'il y a quelque chose, aujourd'hui, il faut le mettre en ordre. N'attendez pas demain. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre une décision. Et le Seigneur vous donnera la force, que vous n'avez peut-être pas, mais il vous donnera la force de vous supporter les uns les autres, parce que c'est son désir. Il a fait de nous une famille, des fils et des filles de Dieu, mais qui ont besoin aussi d'être perfectionnés. On a besoin d'être perfectionnés, surtout dans le domaine des relations. Et je parle le premier, hein, dans ce sens. Donc je ne me mets pas du tout au-dessus de vous, parce que j'ai aussi mon caractère, j'ai aussi mon tempérament, et j'ai eu aussi des moments un petit peu de dispute, un petit peu, avec mon conjoint aussi, parce que on n'a pas toujours les mêmes points de vue, et le conflit, c'est quelque chose de normal. Par contre, ce qu'il faut, c'est savoir régler le conflit. Et le supportez-vous les uns les autres, très important dans le couple, dans la famille aussi, avec les enfants, et dans l'église. Donc, dans tous ces domaines-là, j'aimerais qu'on puisse s'interroger et qu'on prenne aussi une décision. Parce que sinon, ça partira comme les plumes d'un canard, quoi. Or, le but de la parole, c'est de nous transformer. La parole, elle est source de transformation. Donc, si vous ne gardez qu'une chose, gardez simplement cette parole. Supportez-vous les uns les autres, avec les ingrédients, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.